Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à un club mythique du rugby français des années 1920-1930, l'US Quillan, champion de France en 1929. Le club de Quillan a été créé en 1902. En 1929, Quillan devient champion de France en battant le voisin Lézignan, 11-8. À Quillan, l'entrepreneur et chapelier Jean Bourrel remâchait sa déception de l'année précédente. En 1928, Pau domine Quillan 6-4, deux essais non transformés contre un drop qui valait 4 points à l'époque. La section paloise est composée de Béarnais. Quillan fait office de club à mercenaires et ont reproché au chapelier son amateurisme marron, terme désignant la professionnalisation des joueurs. Jean Bourrel s'était juré d'arriver au bout de son projet. Il avait même rajouté dans son pack Eugène Ribert, l'un des plus beaux avants de l'époque qui, par son calme et son sens du jeu, calmait les ardeurs bouillantes de Quillan. Eugène Ribert est né le 14 juin 1902 à Thuir, dans les Pyrénées-Orientales. Commerçant issu d'une famille d'agriculteurs, ce troisième ligne L de 1,80 m pour 82 kg fut tout à la fois un grand attaquant et un défenseur intraitable, toujours d'une correction exemplaire. Il réussit le tour de force d'être retenu en sélection nationale durant 10 années. 34 sélections de 1924 à 1933, à une période où les sélections annuelles pour des matchs internationaux ne dépassaient pas 4 à 5 caps par an. Il a été champion de France en 1925 avec Perpignan face à Carcassonne, où joue un certain Jean Sébédio. Ribert deviendra entraîneur, champion de France en 1936 avec Narbonne. Il décède en 1988 à Bordeaux. En 1928, en demi-finale, Quillan avait écarté les Agenais à Bordeaux. Surprise, ce fut le voisin de Lézignan, entraîné par Sébédio, surnommé le Sultan, du fait de sa participation à la guerre en Syrie, qui se présenta. La rencontre sentait le soufre. La violence de la demi-finale entre Lézignanais et les Biterrois avait laissé des traces, au point que le talonneur Lézignanais, Porra, joua avec un drain dans la jambe. La fin des années 1920 annonce un des maux du rugby français, les bagarres, la violence. Arrêtons-nous sur l'itinéraire de Jean Sébédio, l'entraîneur de Lézignan. Jean Sébédio est né le 12 décembre 1890 à Saint-Jean-de-Luz. C'est un truculent athlète au corps massif. Son palmarès eût été plus étoffé encore sans l'interruption due à la Première Guerre mondiale. De par son caractère plein et entier, il fut même arrêté à Dublin en 1920, juste avant la première victoire française extérieure dans le tournoi des Cinq Nations, pour avoir osé entonner la Marseillaise et autres chants révolutionnaires dans un pub en compagnie de supporters indépendantistes irlandais sympathisants républicains. Jean Sébédio débuta par la pelote basque, jusqu'à ses découvertes du rugby naissant en 1908. Jouant ainsi au club d'Andaye durant trois saisons, avant de rejoindre Tarbes en 1911, puis Nîmes en 1917, l'AS Béziers en 1918 et enfin Carcassonne en 1920, dont il devint ensuite entraîneur. Un drôle de globe-trotteur avant l'heure. Jean Sébédio reste aussi dans la légende par la fameuse Sébédio. Cette phase d'entraînement, nommée comme telle, est pratiquée par les joueurs du RC Toulon dans les années 1970 à 1990, consistant à pratiquer dans un tout petit périmètre. Les qualités de défense et de combat devenaient alors primordiales. Cette phase d'entraînement avait pour finalité de développer l'esprit guerrier du joueur toulonnais et permettait par là même l'occasion de régler quelques contentieux de club. Sébédio exerça dans le Midi le métier de transporteur-camionneur. Il décède en 1951, à l'âge de 60 ans. Sous un temps d'orage, entouré par la foule, cette finale donc de 1929 devint insoutenable. 8-8 à la 70e minute. La délivrance vient de Bayette, le centre de Quillan, qui partit de ses 22 mètres, évita tous les défenseurs pendant 80 mètres avant d'aplatir dans l'embute. Quillan était enfin champion de France. Mais quelques sages en vinrent à se demander si le rugby en sortait véritablement vainqueur. En 1930, Agen l'emporte contre Quillan 4-0 après prolongation. On ne donnait pourtant pas cher des chances agenaises devant le champion en titre. Le chapelier Jean Bourrel avait recruté l'ailier toulousain Barbazange. Enlevé le troisième ligne, Bigot à Lézignan, le talonneur Bacot à Perpignan ainsi que l'arrière d'Estarac. Contre toute attente, la grève de ces nouveaux joueurs, avec une sélection déjà hétéroclite montée en 3 ans, se fit. Jamais les champions en titre n'avaient paru plus redoutable. Pourtant, les Audois n'arrivèrent pas à concrétiser leur domination territoriale. Mais il est possible que 3 saisons éprouvantes où Quillan était allé chaque année en finale, l'obligation de rejouer leur match contre Carcassonne le dimanche précédent pour arracher la qualification rendait les jambes lourdes. En prolongation, l'arrière agenais Guiral passa le drop victorieux des 45 mètres en coin. L'équipe d'Agen présenta le bouclier de Brennus sur la tombe toute fraîche du jeune ailier Michel Pradier, décédé une semaine auparavant en demi-finale contre Pau sur un plaquage à retardement, colonne vertébrale brisée. Côté Quillan, l'équipe fut dissoute à la fin de la saison pour se changer en stade quillanais. Les étoiles filantes partirent vers d'autres cieux, la plupart vers le rugby à 13. Jean Bourrel avait fait fortune en relançant à Quillan l'industrie du chapeau et avait mis ses connaissances de gestionnaire au service du rugby. Les performances de Quillan, 8e de finale en 1967 et 16e de finale en 1968 et 1970, suivent les performances de l'entreprise qui périclite dans les années 1980 et sera définitivement fermée en 2003. En 2014, descendu en Fédéral 3, le club de Quillan fusionne avec celui de Limoux. C'est l'union sportive Quillan-Limoux-Haute-Vallée de l'Aude. Fin d'une époque et d'un certain rugby. Ses adversaires de la poule 9 de Fédéral 3 sont aujourd'hui la jeunesse sportive libérienne La Tour Tieda, le Racing Club Revellois, le Racing Club de la Sandrune, Rivesalte, Baïssas, Espira Agly 15, le Rugby Club Murotin, le Sort à Goutte 15, l'UAS à Verdunoise, l'US Canton d'Alban, enfin l'US Turinoise. Quillan est une commune rurale qui compte 3300 habitants après avoir connu une forte hausse de population depuis 1975. L'économie de la ville de Quillan dépend déjà jadis de son activité manufacturière. Chapellerie, industrie de la chaussure, cuir et toile et des matières plastiques, fabrique de meubles. Le tourisme est désormais une des principales sources d'emploi et d'activité de la ville. De son côté, Lézignan-Corbières est une commune urbaine qui compte 11 500 habitants. Elle est la 4e commune la plus peuplée du département de l'Aude, après Narbonne, Carcassonne et Castelnaudary. Lézignan est bien connu pour son club de rugby à 13, qui évolue actuellement en première division nationale, élite 1, avec les clubs de Limoux, Carcassonne, Albi, Saint-Estève, Pia, Avignon, Villeneuve-sur-Lot, Toulouse Olympique et Saint-Gaudens. L'Aude est un pays inconditionnel du rugby et des deux rugby, rugby à 15 et rugby à 13. Petit retour en arrière. Le rugby à 13 est né en Angleterre en 1880. Il attire tout de suite les classes populaires, les ouvriers. En 1906, en Angleterre, on accepte le professionnalisme. En France, le Front populaire adopte le rugby à 13. La Ligue française de rugby à 13 est née en 1934 dans un contexte marqué par le jeu violent en rugby à 15 et la professionnalisation des joueurs, l'amateurisme marron. Mais une ordonnance de 1940 abolit le rugby à 13. Le gouvernement de Vichy, par l'intermédiaire du colonel Pascot, ancien international à 15, perpignanais, chef du service des sports du commissariat dirigé par Jean Borotra, décide de réunir en 1941 les deux rugby dans une même fédération quinziste. Une décision inadmissible pour tout rugbyman, quinziste et surtout treiziste. Bénéficiant d'une cote d'amour sans précédent, le 13 renaîtra après la guerre et connaîtra des succès exceptionnels, en partie grâce à l'équipe de France et son maître à jouer, l'arrière Puy Aubert, dit Pipette. Néanmoins, après-guerre, la dénomination devient jeu à 13, et ce n'est qu'en 1993 que l'appellation rugby à 13 reviendra. Mais le mal est fait. En France, le rugby à 13 est bien le parent pauvre du rugby à 15. Actuellement, le rugby à 13 se maintient très difficilement dans les anciennes contrées cathares, avec des pointes à Perpignan, Avignon et Toulouse.
C'était la chronique de Gilles Labourroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.